carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bienvenue à l'écoute des programmes de Canal Académie. Jean d'Ormesson a voulu imaginer un dialogue basé sur des propos authentiques de l'empereur pour expliquer un fait d'histoire extraordinaire et difficilement compréhensible. Comment Bonaparte, général corse républicain, ami de Robespierre, comment lui vient l'idée de devenir empereur ? À lui, Bonaparte, qui avait juré haine à la royauté. Pour ce dialogue imaginaire, Jean d'Ormesson a choisi comme interlocuteur de Bonaparte son fidèle et très attaché Cambacérès, lui aussi républicain, deuxième personnage du consulat, qui deviendra vite archi-chancelier de l'Empire également. Cette conversation imaginée est devenue un livre, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, puis une pièce de théâtre créée en 2012 à Paris au Théâtre Héberto, La Conversation. Voici donc sur Canal Académie, toute une émission exclusive au cours de laquelle Jean d'Ormesson, qui occupe le fauteuil numéro 12 de l'Académie française, nous présente le directeur du Théâtre Héberto de Paris, Pierre Franck, grand amoureux et défenseur des textes, des grands textes, ainsi que les deux comédiens, Maxime Daboville dans le rôle de Bonaparte, Alain Pochet dans celui de Cambacérès, et le metteur en scène Jean-Laurent Sylvie, à qui Jean d'Ormesson a confié et dédié cette toute première pièce. Nous commençons donc avec la lecture de la quatrième de couverture du livre « La conversation » de Jean d'Ormesson. Écoutez.
Un soir de l'hiver 1803-1804, aux Tuileries, une conversation imaginaire entre Bonaparte et son deuxième consul Cambacérès, celui à qui il ne cache rien et demande tout, au comble de l'attention, entre l'esprit révolutionnaire et l'avidité de puissance. Une seule volonté anime le héros républicain bâtir sa légende de son vivant. C'est la République qui monte sur le trône. Jean d'Ormesson saisit l'ambition au moment où elle se change en histoire. Le rêve sur le point de devenir réalité.
Essayer de saisir l'instant où Bonaparte, adulé par les Français qu'il a tiré de l'abîme, décide de devenir empereur. L'histoire offre des moments où elle semble hésiter avant de prendre son élan. Hannibal, par exemple, quand il décide de passer les Alpes avec ses éléphants pour frapper Rome au cœur, ou César sur les bords du Rubicon, ou encore le général de Gaulle, à l'aube du 17 juin 40, quand il monte dans l'avion qui va l'emmener vers Londres, c'est un éclair de cet ordre que j'ai essayé de saisir.
J'ai toujours été attiré par les grands textes. J'ai ainsi eu l'honneur de créer pratiquement tous les dialogues de Paul Valéry, certaines pièces de Paul Claudel, Monterland. En ouvrant mon courrier un matin, je reçois une lettre des éditions Héloïse d'Ormesson qui accompagnait la conversation qui venait d'être éditée. Elle précisait dans sa lettre que ce roman était plutôt écrit en dialogue et par conséquent pourrait peut-être faire l'objet d'une présentation théâtrale. Je l'ai lu, j'ai été enthousiaste. Parce que Jean d'Ormesson s'inscrit justement parmi les grands écrivains qui ont encore un style.
Absolument.
Trois jeunes les acteurs sont venus me voir en me disant « Nous avons lu un texte qui nous passionne, qui a été écrit par Jean d'Ormesson. Nous l'avons contacté. Il nous a dit « Allez voir Pierre Franck ».
Il est quand même bon de savoir que c'est le plus beau théâtre de Paris. Et on ne dit pas ça parce qu'on y joue. Enfin, moi, je l'ai toujours pensé, donc je suis quand même très content de m'y produire.
Et ils m'ont dit, avez-vous lu la conversation ? Je leur ai dit oui. Mais nous, on voudrait jouer les
alors
rôles.
C'est très exigu.
Je leur ai dit, c'était une bonne idée. Comme ils ont beaucoup de talent.
S'y glisser.
J'étais content de les accueillir.
Si ça vous amuse de voir notre décor, on ne sait pas. Hein ? Regardez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà le décor de le plateau de la conversation. Le bureau du premier consul. Voilà, avec de très beaux rideaux verts.
Et maintenant, on va vous montrer la loge. Voilà, voilà. Bienvenue dans la loge de Bonaparte et Cambacérès. On a pas mal lu. C'était important de pouvoir le faire pour se nourrir aussi. Pour ma part, j'ai lu une biographie assez importante écrite par Laurent Châtel de Brancillon, qui est vraiment l'auteur par excellence de Cambacérès, et que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et qui a essayé de me guider un peu, parce que Cambacérès, qui a toujours été un peu l'homme dans l'ombre, qui aujourd'hui le connaît, enfin, peut-être ceux qui font le droit, et d'autres sans doute, mais moi, autour de moi, peu de personnes finalement connaissent vraiment ce personnage.
J'ai effectivement énormément lu, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu pourquoi finalement il en était arrivé à vouloir faire l'Empire. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup taraudé. Est-ce qu'il y avait un vrai fondement rationnel ou est-ce que c'était qu'une ambition démesurée? Et en réalité, je me suis aperçu que pas du tout. C'était un politique d'une très très grande intelligence. Et il s'est aperçu que dans le contexte de l'époque, finalement, le consulat était d'une très très grande fragilité. Et finalement, l'idée de l'Empire, c'est l'idée aussi de pérenniser le régime, quoi, de pérenniser tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, de l'inscrire dans la durée. C'était vraiment ça. Et on est dans une période où on a connu voilà, pratiquement que l'ancien régime. Et la révolution, un jour, il faut bien la terminer. C'est-à-dire que toute la période révolutionnaire depuis 1789, ça n'est que des essais. Il n'y a pas de fondation institutionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte de ça, en fait.
Bonjour, Maxime.
Bonjour, Jean.
Bonjour, Alain. Bonjour Bonaparte, bonjour Cambacérès. Alors je suis peut-être le père biologique de cette conversation, mais je l'ai abandonnée, je l'ai remise entre les mains de Maxime d'Abbeville et d'Alain Pochet. C'est eux maintenant qui sont chargés de la nourrir, de l'élever, de lui faire faire ses débuts dans le monde. Et j'ai l'impression que cette pièce m'échappe. Et c'est maintenant eux qui l'incarnent. Et je dois vous dire que quand je pense maintenant à Bonaparte ou à Cambacérès, je pense à Maxime et à Alain. Un jour, Alain m'a téléphoné en me disant que cette conversation l'intéressait. Et moi, j'étais un peu vague, je dois vous dire. Je ne savais pas très bien ce qu'on pouvait faire. Et on a décidé de faire une lecture. Et à la première lecture, je dois vous dire, j'ai été ébloui par mes deux interprètes. J'ai trouvé qu'ils étaient merveilleux. Et je n'ai pas hésité une minute. Autant avant le coup de téléphone d'Alain, j'étais un peu dans le vague. Autant après la lecture, je m'étais dit, ces deux-là, il ne faut pas les laisser s'échapper.
Mais là, je vais peut-être vous décevoir un tout petit peu, mais moi, je ne dis pas les mots de d'Ormesson, je dis les mots de Bonaparte. Ouais. Jean d'Ormesson a su ramasser les propos de Bonaparte qu'il a tenus tout au long de sa carrière, on va dire. Il les a ramassés dans cette conversation et je pense que la difficulté était de les agencer. pratiquement tout ce que M. d'Ormesson faisait dire à Bonaparte, Bonaparte l'avait réellement dit, mais dans d'autres circonstances. Et je dois dire que c'est un honneur de dire des mots de Bonaparte agencés par M. d'Ormesson.
Alors Maxime a tout à fait raison, il a tout à fait raison, j'ai toujours dit, même quand le livre est sorti bien avant qu'on en fasse une pièce de théâtre, j'avais toujours dit que je mettais dans la bouche de Bonaparte des mots qu'il avait prononcés à un moment ou à un autre, des mots qu'il aurait pu prononcer, ou des mots qu'on lui prêtait. Il n'y avait pas de press people à cette époque-là, mais il y avait l'équivalent avec les mémoires de Madame de Boigne, les mémoires de Madame de Chastenay, les mémoires de Madame de Tourdupin, les mémoires de Madame de Rémusat. Et j'avais vu des mots extraordinaires de Bonaparte, qui étaient incroyablement brillants. Il faut se rappeler que Bonaparte, comme Cambacérès, comme Talleyrand, comme Chateaubriand, comme Fouché, sont des hommes du XVIIIe siècle. Ils parlent comme le prince de Ligne ou comme Voltaire. Et Bonaparte a évidemment du génie. Et Cambacérès est un personnage tellement amusant et tellement excitant. Il a voté la mort du roi. Il l'a voté avec réserve. Il ne voulait pas qu'on tue tout de suite le roi. Il préférait qu'on le laisse mijoter un peu et qu'on ne le tue que s'il y avait vraiment nécessité de le tuer. Ce qui permet de dire, quand Maxime lui dit « Vous avez voté la mort du roi », il peut dire « Oh, à peine !» parce qu'il l'avait voté avec réserve. Je voudrais citer deux choses. La première, c'est, je crois que c'est Rostand qui voulait dédier Cyrano de Bergerac à l'âme de Cyrano de Bergerac. Et dans une célèbre dédicace, il dit « Puisqu'elle est passée en vous, Coquelin, c'est à vous que je la dédie. » Et bien, je pourrais dire que j'ai dédié cette pièce à Alain et à Maxime. Et la deuxième chose que dit très justement Maxime, c'est que le génie est évidemment, non pas de moi, mais de Bonaparte, mais il y a une pensée de Pascal que j'aime beaucoup qui dit « Quand on joue à la balle est toujours la même, mais ce qui est différent, c'est la façon de la placer. » Eh bien, je l'ai placée de façon différente, et Maxime et Alain la placent encore mieux et de façon différente.
Alors moi, contrairement à Maxime, c'est un honneur de pouvoir jouer les répliques écrites par Jean d'Ormesson, qui ont été faciles à apprendre, bien sûr. J'ai pris beaucoup de plaisir à les apprendre. Mais alors, pouvoir jouer ce texte devant l'auteur, et c'est ce que je souhaiterais à Maxime, mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Enfin, je crois que Napoléon nous regarde quelque part, mais c'est vrai que c'est vraiment un honneur pour nous, parce qu'on connaissait tous Jean depuis pas mal d'années. Et en plus, pouvoir jouer sa première pièce, il y aura peut-être d'autres après, on ne sait pas. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est sa confiance, en fait. Dès le départ, il nous a fait confiance. Et ça, pour nous, c'est un énorme cadeau.
Bien sûr, je n'ai pas résisté à assister à plusieurs répétitions. Je pense que à chacun son métier. Moi, c'est ma première pièce. Je n'ai absolument pas la prétention de connaître le théâtre. Je fais confiance à Jean-Laurent Sylvie et je ne m'en repens absolument pas. Évidemment, pour moi, c'est une espèce d'émotion. Jean-Laurent, Maxime, Alain sont habitués au théâtre. Moi, c'est mon premier contact avec le théâtre et c'est très différent de l'accueil fait à un livre. L'accueil fait à un livre, c'est évidemment anonyme. On ne vous donne que des chiffres. Tandis qu'ici, vous avez le contact avec le public. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, d'incomparable.
Bonjour.
bien voilà, citoyen premier consul, nous en avons terminé. Avec votre permission, je vais me retirer. Je soupe ce soir avec Talleyrand. Mmh.
Chez lui, rue du Bac, à l'hôtel Galifet ?
Non, chez moi, à l'hôtel Delboeuf.
Vous y êtes bien, à l'hôtel Delboeuf ? Je me suis laissé dire que l'hôtel du deuxième consul est moins vaste que l'hôtel Noailles où réside le troisième consul.
Vous êtes fort bien renseigné, mais l'hôtel Noailles où réside Lebrun est situé rue Saint-Honoré, et moi, à l'hôtel Delboeuf, je donne sur le carrousel, ou presque à deux pas de vos Tuileries. Il y a toujours avantage pour les saints à se tenir le plus près possible de leur Dieu.
Paraît que vous êtes un saint très gourmand et qu'on mange fort bien chez vous.
J'espère que ce n'est pas un reproche.
C'est une constatation.
Tant mieux. Me voilà rassuré.
Tout d'abord, il y a cet aspect tout à fait historique du texte entre deux personnages célèbres, connus. Ces événements, cette période très compliquée, qui a été très riche politiquement. Et nous, il fallait que ça passe, justement, au travers de l'histoire de ces deux hommes, d'un Bonaparte qui a tout juste 33-34 ans, qui est en pleine ascension, qui est le chef de la France à 33 ans, ce qui est tout à fait étonnant, et de Cambacérès, qui est ce personnage vieillissant, en fin de carrière, et qui est totalement dévoué et admiratif du génie de Bonaparte. C'était avant tout ça qu'il fallait rendre, cette complicité, cette émotion qui est entre ces deux hommes, ce respect, et parfois même cette familiarité. Et c'est ça, c'est sur quoi on a travaillé dès qu'on a commencé les répétitions. On s'est dit, on a lu toutes les biographies, on s'est beaucoup renseigné, mais maintenant on oublie et on propose quelque chose d'humain.
La gourmandise n'est pas votre seul défaut, mais c'est celui dont il est permis de parler avec le plus de facilité.
Mon Dieu, que vous êtes brusque! Mais comment voulez-vous vous faire des amis si vous ne leur offrez pas ce qu'il y a de meilleur? C'est aussi par la table qu'on agit sur les hommes. Et la bonne politique, après tout, se confond peut-être en partie avec la bonne cuisine.
Ah, pour vous, peut-être. On m'assure que les valises diplomatiques ne vous font pas seulement parvenir des dépêches, mais aussi des victuailles qui vous arrivent d'un peu partout et souvent de pays ennemis.
Ah! Décidément, rien n'échappe au séide que Fouché a semé autour de lui.
Mais j'ai pas besoin de Fouché pour être au courant de tout ce qui se passe à Paris et en France. Et même de vos perdreaux, qui sont rôtis d'un côté et grillés de l'autre.
Que voulez-vous ? Vous êtes le premier consul et je ne suis que le deuxième. À chacun ses grandeurs. Vous remportez des victoires et je sers des repas. Un souper réussi, c'est mon maringot à moi.
Et ce que j'ai admiré chez Jean Laurent, c'est qu'il a animé la pièce. Il n'y avait peut-être pas suffisamment de ressort dramatique, mais il en a mis. De temps en temps, on se demande ce qui va se passer. Il y a des sorties de Cambacérès, il sort, il revient. Il y a un récit où Bonaparte raconte une histoire d'un châle. C'est une histoire absolument authentique. Un châle qui était disputé par Joséphine, la femme du premier consul, et Caroline, sa sœur, la femme de Murat. Et il m'a semblé que, très intelligemment, Jean Laurent faisait presque jouer ça comme du Fedot. Comme du Fedot. Tout à coup, ça prend un rythme endiablé. C'était pas tant, et j'ai beaucoup admiré ça.
Jean d'Ormesson quitte le théâtre Héberto et se rend à l'Institut de France tout en continuant de nous parler de la conversation.
Et vous savez, je n'ai pas pensé à l'époque actuelle en l'écrivant, mais en l'écoutant et en la regardant, je me dis, mais c'est comme aujourd'hui. La situation est très mauvaise, plus mauvaise peut-être même qu'aujourd'hui. Tous les problèmes, chômage, sécurité, pouvoir d'achat, tout ça, ces problèmes sont aussi forts et inquiétants sous le consulat qu'aujourd'hui, et le public fera certainement des comparaisons avec la situation d'aujourd'hui.
Jean d'Ormesson occupe le fauteuil numéro 12 de l'Académie française. Canal Académie l'accueille pour une nouvelle conversation.
Monsieur d'Ormesson, un essai de voix, s'il vous plaît.
C'est un éclair de cet ordre que j'ai essayé de saisir.
Merci. La même chose pour vous, Anne Jouffroy, s'il vous plaît.
Canal Academy a le plaisir de recevoir Jean d'Ormesson de l'Académie française. La complicité s'installe dès les premiers mois du consulat entre Bonaparte et Cambacérès. Et Cambacérès est un homme d'expérience et il devient même l'inébranlable bras droit du premier consul, puis du futur empereur. Et alors pourquoi, monsieur, ce personnage, qui est un jurisconsulte, un civil donc, impressionne-t-il tant Bonaparte et pourquoi a-t-il tout intérêt à le circonvenir, comme vous dites dans votre livre ?
Alors naturellement, quand j'ai pensé à un dialogue pour expliquer cette chose extraordinaire, comment est-ce que Bonaparte, qui est un général corse, républicain, de gauche, ami de Robespierre, comment lui vient l'idée de devenir empereur ? Vous savez qu'il avait juré haine à la royauté. Beaucoup de ses amis avaient même été plus loin, de ses amis ou de ses adversaires.
Vous pensez à Bernadotte ?
Je pense naturellement à Bernadotte, qui s'était fait tatouer sur la poitrine « mort roi ». Et il va devenir, comme vous le savez, roi de Suède. Et je dois vous dire que quand j'avais pensé à résumer en une conversation ce cheminement de l'idée d'empire dans l'esprit de Bonaparte, j'avais d'abord pensé comme interlocuteur, très naturellement, à Talleyrand. Mais d'abord, Talleyrand, au fond de lui-même, était monarchiste. Il voulait un retour à la royauté. Tandis que Cambacérès était républicain, Cambacérès, surtout, est le deuxième personnage de l'État. Il est le deuxième personnage du consulat. Et on ne le sait pas assez, il sera le deuxième personnage de l'Empire.
Oui, parce qu'il sera archi-chancelier.
Il est archi-chancelier, naturellement. Talleyrand se moquera de lui, l'archi-chancelier s'archi-promène dans son archi-carrosse. Et c'est lui qui préside le Sénat, c'est lui qui réunit les ministres quand l'empereur n'est pas à Paris, fait la guerre quelque part. Et il est très attaché à Bonaparte et à l'empereur, et il sera très fidèle. Et je crois qu'il y a une espèce d'affection entre Bonaparte et Cambacérès. J'ai été jusqu'à supposer, je ne le dis pas expressément, je le laisse entendre, que Bonaparte inspire quelque chose qui ressemble à l'amour à Cambacérès. Naturellement, Cambacérès n'osera jamais exprimer ses sentiments, mais il y a un attachement très très fort de Cambacérès à Bonaparte.
Cambacérès est plutôt loyal.
Absolument.
Et l'un des seuls civils à être intime du premier consul, avez-vous écrit. Il est donc le maître d'œuvre du code civil rédigé en 1804, dans un style d'ailleurs à faire pâlir d'envie, dites-vous, les poètes et les romanciers. Il initie Bonaparte aux subtilités de la législation et aussi le code du savoir-vivre parce qu'il lui faut apprendre certaines civilités à cette famille Bonaparte nouvellement régnante.
Vous avez absolument raison, c'est un point très, très, très important. Il y a eu des Jacobins qui ont reproché à Bonaparte, à l'empereur, mais déjà à Bonaparte, premier consul, de rétablir l'étiquette, un protocole et une cour. Et la réponse de Bonaparte était assez belle. Il disait, c'est vrai, j'ai rétabli une cour, mais Murat, qui est prince, et mon beau-frère est fils d'aubergiste. L'âne était charpentier, un tel était mécanicien, un tel était ouvrier, et la femme du duc de Danzig était lavandière, Madame Sangène. Et il avait remplacé, n'est-ce pas, la formule de l'Ancien Régime à chacun selon sa naissance. Et il avait remplacé la formule de la Révolution, l'égalité ou la mort, par une autre formule qui était à chacun selon ses mérites. Mais cette cour était critiquée par les Jacobins, elle était critiquée aussi par l'ancienne aristocratie qui la trouvait très, très vulgaire en réalité. Eh bien, Cambacérès est de ces hommes qui, avec Talleyrand, naturellement, qui lui appartenait à une famille très ancienne, les Périgord. Bon, plus tard, Louis XVIII disait il s'appelle de Périgord. En vérité, il est du Périgord. Mais en fait, c'était quand même une très ancienne famille et qui connaissait très bien les usages de la cour. Et Cambacérès n'appartenait pas à cet ancien régime, mais il en avait pris les manières. Vous savez qu'il donnait des grandes réceptions, la cuisine comptait beaucoup pour lui, il était très gourmand et il savait vivre. Et il a certainement beaucoup contribué à